Donc j'ai trouvé que, un peu dans ce contexte d'Amiens, beaucoup de choses ressortaient. Que Amiens est quand même assez symbolique de toute cette situation. Dont Mgr Feuillet disait, c'est une guerre de mouvement. On est passé d'une guerre de tranchées à une guerre de mouvement. Vraiment, les militaires le savent, une guerre de mouvement, c'est beaucoup plus difficile qu'une guerre de tranchées. Alors, en quoi consiste cette guerre de mouvement dont on voit une réalité à Amiens? Je dirais que le motu proprio a constitué la phase émergée du mouvement, la pointe émergée du mouvement qui est en train de se produire à Rome, dont je précise, hein, précise que c'est un mouvement sur lequel nous ne nous illusionnons pas. Nous savons bien que malheureusement, et ce que tout à l'heure M. Abbé Baroque a dit au sujet de l'encyclique, il exprimait bien que la théologie du pape demeure la théologie du Concile Vatican II et que le motu proprio n'est pas du tout le point terminal de la crise. Cependant, le motu proprio est certainement un premier pas qui est important, comme tous les premiers pas, et un premier pas qui exprime à la fois l'inquiétude du souverain pontife par rapport à la situation de l'Église et la pensée que, avec disons, cette liberté pour la messe de Saint-Pie V, on pourra pallier jusqu'à un certain point la gravité de cette situation. Mais pourquoi est-ce que le pape a tellement tardé à donner ce motu proprio? Ben, je pense que les raisons qu'on perçoit, c'est que le pape s'attendait, il ne s'est pas trompé, à ce qu'il y ait une opposition, une résistance des épiscopats très importante. Je pense que notre pays est bien servi à ce sujet-là. Alors, à Amiens, qu'est-ce que nous percevons de tout cela? Eh bien, nous percevons que, d'une part, effectivement, l'épiscopat avait la possibilité de faire un geste à notre égard dans l'esprit du motu proprio. Je ne dis pas du motu proprio lui-même, puisque nous ne sommes pas reconnus, mais dans l'esprit du motu proprio. Et je pense que ça correspondait assez bien à l'idée du pape, qui est une idée de, bien, je dirais, de recherche d'apaisement. Et probablement, son idée, c'est quand même on peut les laisser tranquilles. Et il y a, dans ce Mgr Feuillet fait aussi une comparaison très intéressante entre le motu proprio et l'édit de Constantin, en disant qu'on est passé d'une période de persécution et d'interdiction à une période de liberté. De liberté qui est, encore une fois, je ne vous disais pas du tout la conclusion du processus, mais une étape du processus, d'avoir donc ce biritualisme. Et dans cette période de liberté, je ne pense pas me tromper en croyant que bon, l'idée du pape serait effectivement de ne pas nous ennuyer, nous, la Fraternité Saint-Pie-X, et de desserrer un petit peu certains étaux à notre égard. On voit bien que ce n'est pas du tout ce qui s'est produit à Amiens, et je le souligne, malgré donc des interventions importantes en notre faveur. Par rapport au pape, donc on s'aperçoit, par rapport à ce mouvement amorcé par le pape, on s'aperçoit que l'épiscopat, et l'épiscopat français en particulier, s'arc-boute sur sa perspective que nous connaissons bien depuis une dizaine d'années, sur sur le Concile Vatican II, sur les idées de Vatican II, sur la nouvelle messe avec une hostilité contre l'ancienne. et non seulement s'arc-boute, mais s'il est, je pense, aggrave encore autant qu'il le peut cette hostilité. Il y a une sorte de crispation des évêques à laquelle on assiste actuellement par rapport à cette question du motu proprio et de la messe de Saint-Pie V pour l'empêcher le plus possible. Et je dirais toujours en regardant cette situation d'Amiens un petit peu comme un révélateur, je pose la question, est-ce que les évêques ont la possibilité, je dirais simplement politique, de continuer comme ça? Nos évêques ressemblent de plus en plus à des généraux mexicains. Ils ont beaucoup d'églises toujours, mais ces églises sont vides parce qu'il y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins de fidèles aussi. Et pourtant, ils veulent conserver cette même attitude. Bien, je pense que quand je parlais tout à l'heure de coup de boomerang, je pense qu'effectivement, la nature ayant horreur du vide, ça ne va pas pouvoir rester comme ça. Donc là encore, je pense que la situation d'Amiens, M. Bellerand faisait tout à l'heure parler de cette comparaison entre à l'extérieur de la cathédrale avec plus de 500 fidèles qui assistaient à la messe et dans la chapelle latérale de la cathédrale, pas dans la nef, hein, la messe de la cathédrale est célébrée dans une chapelle latérale. Il y avait donc 50 fidèles qui étaient là. On sent bien que ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Ce ne sont pas les murs des églises qui nous intéressent en priorité, mais on se pose la question, et parfois on a des réponses à apporter, qui aura les murs des églises? Les évêques pensent-ils pouvoir conserver indéfiniment les murs de leurs églises? Le message des évêques, la position des évêques, devient illisible. Parce que, et j'en ai aussi toujours dans cette affaire d'Amiens, des indications qui m'en ont été données, parce que les gens tout à fait extérieurs à nous se rendent compte que la position des évêques, sonne faux par rapport à celle du pape, qu'il y a une sorte de distanciation qui est en train de se faire entre l'une et l'autre. Je dirais que sorte de résurgence du légalitarisme qui est observé par des observateurs extérieurs qui nous en ont fait part. Dans cette perspective aussi, les solutions qui ont été créées en particulier pour que la fraternité Saint-Pilis se retrouve le plus isolée possible les murs qu'on a, ou les fossés qu'on a essayé de créer autour de la fraternité pour empêcher les fidèles d'y aller, donc la fulmination des excommunications, la création d'instituts pseudo-traditionnalistes autour d'elles pour que les personnes attachées à la messe de Saint-Pie V y aillent plus tôt, on les sent très inquiets de la situation eux-mêmes. Et là aussi, nous avons des témoignages qui nous ont été donnés. Parce que malgré les allégeances qu'ils ont faites aux évêques, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être agréé, ça ne suffit pas pour être accepté. Il y a une sorte d'hostilité qui existe aussi contre eux. Et d'une certaine manière, je l'ai également senti à Amiens, ça les fait se tourner un petit peu vers nous. En se disant, on est rejeté par les évêques, et même sans le vouloir, ça les amène à regarder vers nous. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que cette guerre des mouvements a un peu décalé pas mal de choses, des repères auxquels on était habitués, et d'une façon qui, je pense, s'avère providentielle et favorable à la fraternité. D'une certaine manière, peu importe la fraternité, mais au combat pour la foi, qui est mené par par la fraternité. Je dirais que les choses sont dites d'une façon qui est forcément en peu de mots, donc d'une façon qui est forcément un petit peu disons, schématique. Si le message du pape consiste malgré tout vis-à-vis de la fraternité, après le motu proprio, à dire bon, laissez-les tranquilles, il est certain que à ce mot d'ordre, les évêques français ne sont pas du tout prêts à répondre. Alors, est-ce que le pape dit vraiment laissez-les tranquilles? Il ne l'a pas dit comme ça, et je n'ai pas d'oreille particulière à Rome, mais si vous voulez, je pense que par le motu proprio, il est certain qu'il y a quand même un signe qui consiste à dire les seuls qui ont dit depuis le départ que la messe de Saint-Vicente n'avait jamais été abrogée, c'est quand même ceux de la fraternité Saint-Vitis. C'est pas dit comme ça dans le motu proprio, mais ça correspond bien à ça. Je pense que les évêques français, de par ce décalage qui existe, eh bien, petit à petit, vont se retrouver extrêmement isolés dans leur isolés et souvent dépassés par des prêtres qui eux ne sont pas, ne s'y reconnaissent pas non plus.